À Las Vegas, un repris de justice retourne à sa vie de criminel. Arnaque, cambriolage à la petite semaine et agression. La police tente de le trouver, mais sans succès. Quand le FBI se joint à l'enquête, la violence monte d'un cran. Pour capturer ce fugitif prêt à tout, les autorités devront réussir à prévoir ses faits et gestes. Las Vegas, au Nevada. Sous l'éclat des enseignes au néon, travaillent des milliers de gens qui font tourner la machine et des criminels qui n'attendent qu'à profiter de la moindre occasion pour passer à l'acte. Tôt dans la matinée du 11 décembre 2000, à Anderson, en banlieue de Las Vegas, une serveuse de 17 ans se rendait au travail. Dans un stationnement, un homme lui offrit de la conduire. Elle refusa poliment. L'arme qu'il braqua alors sur elle l'empêcha d'appeler à l'aide. Il la conduisit dans un secteur isolé où il la viola. Dès que la jeune femme le put, elle prit la fuite. Elle trouva un restaurant d'où elle appela le service d'urgence. Un patrouilleur se rendit au restaurant pour prendre la déposition de la jeune femme et la conduire à une clinique des environs. En route, il aperçut une voiture sport rouge qui correspondait à celle décrite par la victime. Quand le policier s'approcha, le conducteur accéléra. À l'approche des rues achalandées de la ville, le suspect se mit à conduire de façon de plus en plus imprévisible. Le policier abandonna la poursuite, jugeant que c'était devenu trop risqué pour la sécurité des gens. Il avait toutefois eu le temps de noter le numéro de la plaque d'immatriculation du fugitif. Le service de police d'Anderson vérifia ce numéro et découvrit que le propriétaire du véhicule vivait à Las Vegas. Le détective Barry Jensen appela chez lui. Celui-ci déclara qu'il avait prêté sa voiture à sa fille. Il accepta ensuite de rencontrer le détective Jensen en compagnie de sa fille, Rachel Mills, à l'appartement de cette dernière. Celle-ci venait de rentrer du casino où elle travaillait. En arrivant, le détective leur parla du conducteur de la voiture qui avait pris la fuite et du viol de la jeune femme. Rachel déclara que son mari avait la voiture ce matin-là. Il l'avait laissée à son lieu de travail à 5h du matin et elle ne l'avait pas revue depuis. Elle espérait qu'il s'agissait d'une erreur. Rachel avait remarqué que leur voiture était garée au bout du stationnement. Le détective Jensen lui demanda de bien vérifier si son mari n'était pas revenu. Pendant ce temps, Jensen et le père de Rachel vérifieraient la voiture. En visitant l'appartement, Rachel constata que son mari avait pris presque toutes ses affaires. semble être parti pour de bon. La voiture appartenait au père de la jeune femme, mais comme Rachel et son mari la conduisaient fréquemment, eux seuls pouvaient consentir à ce qu'elle soit fouillée.
His stuff is gone. His clothes, the drawers, all the stuff he keeps on the dresser, photos. I don't know. Everything seems it's gone.
Could you give me your verbal consent to search the car without getting a search warrant?
Oh, okay.
Have you got a set of keys?
Bien qu'ébranlée par ce qui venait d'arriver, Rachel autorisa Jensen à examiner l'intérieur de la voiture. Le détective croyait que le fait que le véhicule soit garé à l'extrémité du stationnement était déjà significatif.
À mon avis, il l'avait caché là en quelque sorte. Je crois qu'il savait que la police découvrirait où il habitait. Il se disait sans doute que si sa voiture n'était pas garée directement devant l'appartement, il aurait plus de temps devant lui. Ainsi, il pourrait prendre de l'avance sur les autorités qui se mettraient à sa poursuite.
Dans la voiture, Jensen remarqua quelques effets personnels qui correspondaient à certains éléments décrits par la victime. Cela ne fit qu'augmenter ses soupçons envers le mari de Rachel. Cette dernière déclara que son mari n'avait pas d'emploi régulier. Son père et elle ne purent toutefois donner au détective plus d'informations à son sujet.
Ils nous ont principalement dit qu'il aimait jouer au blackjack et au dé, mais ils ignoraient où il trouvait son argent pour jouer.
Jensen fit venir des techniciens en scène de crime pour que ceux-ci se mettent à la recherche d'indices dans la voiture. Jensen était bien obligé de dire à Rachel qu'on soupçonnait son mari d'avoir violé la jeune femme de 17 ans. À la requête du policier, elle lui donna une photo de son mari, Makfour Mansour. S'il était bien l'auteur de cette agression, Jensen espérait que la victime pourrait l'identifier à partir de cette photo. De retour au poste de police, le détective Jensen interrogea la jeune femme. Elle identifia formellement Makfour Mansour comme étant son assaillant. La police du Nevada l'accusa d'enlèvement et de viol. Jensen découvrit alors que Mansour avait un lourd passé judiciaire.
Il avait été arrêté à plusieurs reprises pour des crimes sexuels, des viols et pour grossière indécence. Il avait également été arrêté pour des cambriolages, des fraudes par carte de crédit et pour possession illégale d'armes à feu.
Lors de son incarcération, on avait diagnostiqué chez Mansour des troubles sévères de la personnalité proches de la sociopathie.
C'était un arnaqueur rusé. Il faisait faire aux gens des choses qu'ils auraient normalement refusé de faire. C'était un violeur en série et un criminel de carrière.
Pendant plusieurs jours, la police ne trouva aucune piste sérieuse sur cette affaire. Puis Jensen obtint un tuyau d'un nouvel allié, le beau-père de Mansour.
Il avait fait quelques recherches et interrogé des amis de la famille. Il savait que Mansour jouait fréquemment au casino d'un hôtel. Il croyait que celui-ci y avait peut-être une chambre. J'ai alors découvert qu'on lui offrait effectivement une chambre gratuitement parce que c'était un gros joueur.
Voyant qu'il y avait des caméras de surveillance dans les couloirs, le détective demanda au responsable de la sécurité de l'hôtel de surveiller la chambre de Mansour de près et d'appeler la police dès qu'il verrait quelqu'un y entrer. Le soir suivant, un gardien de sécurité aperçut un homme entrer dans la chambre de Mansour. Il appela immédiatement le service de police de Las Vegas. Les détectives se rendirent à l'hôtel, mais l'homme était ressorti de la chambre moins d'une minute plus tard et l'on avait perdu sa trace. Lorsque les détectives de l'escouade des crimes sexuels arrivèrent, ils firent ouvrir la chambre du suspect.
On y a trouvé une valise et des photos de famille, mais rien qui pouvait nous aider à faire progresser l'enquête.
Pour se mettre à la recherche du suspect, on devait disposer de ressources additionnelles. On se tourna alors vers l'agent spécial Scott Bacon et le détective Brian Dunaway de l'escouade d'arrestation des criminels du bureau du FBI de Las Vegas. Cette escouade, composée de membres de plusieurs agences policières, a pour mandat de retracer les fugitifs dans la région de Las Vegas. En premier lieu, l'escouade fit distribuer des fiches d'information sur Mansour aux hôtels de la région.
Quand on est à la recherche d'un individu et qu'on croit qu'il se cache dans un hôtel, on se sert d'un appareil qu'on appelle un Trax. Il s'agit en fait d'un télécopieur sophistiqué qui nous permet d'envoyer des images numériques couleur simultanément à plusieurs personnes. Quand les gens n'ont pas de Trax, on procède selon l'ancienne manière. On frappe aux portes et on distribue des photos. Bref, on parle aux gens pour s'assurer que tout le monde soit au courant.
Les enquêteurs vérifièrent les registres des hôtels à la recherche d'un des pseudonymes de Mansour. Mais ils ne trouvèrent rien. Toutefois, des employés de services de sécurité déclarèrent qu'ils soupçonnaient Mansour d'avoir commis une série de cambriolages dans des chambres d'hôtel du centre-ville de Vegas. Ils décrivirent comment il s'y prenait. Selon eux, Mansour prenait les touristes, généralement d'origine asiatique ou du Moyen-Orient, comme proie.
Il se faisait passer pour un traducteur ou un guide touristique. Ainsi, il gagnait la confiance de ses visiteurs qui avaient de l'argent. Après un certain temps, il demandait au personnel de lui ouvrir la porte de leur chambre en utilisant les informations qu'il avait réussi à glaner sur eux, ou en se faisant passer pour ces touristes eux-mêmes.
En rentrant, les voyageurs constataient que leur chambre avait été saccagée. Au cours de ces vols, Mansour avait volé plus d'un quart de million de dollars en argent liquide et en bijoux. L'agent Bacon croyait que le suspect se servirait de cet argent pour quitter le Nevada.
On a obtenu un mandat d'arrestation contre lui pour avoir fui dans un autre État pour s'éviter d'être poursuivi en justice relativement au viol. Avec ce mandat fédéral en main, on pouvait faire appel aux autres bureaux du FBI du pays et leur demander de nous aider à retrouver Mansour.
Les agents tentèrent de restreindre le champ de ses recherches à l'échelle nationale en examinant toutes les informations colligées sur le suspect. La femme de Mansour remit aux enquêteurs des relevés de ses appels interurbains qui montraient qu'il avait appelé plusieurs casinos partout au pays.
On a commencé à dresser le profil de ce type qui était un adepte de jeux d'argent. On a alors ciblé notre enquête sur les casinos.
Les enquêteurs avisèrent entre autres les établissements de jeux de la Nouvelle-Orléans et leur demandèrent de leur signaler la présence du suspect. Le matin du 9 janvier 2001, soit 29 jours après le viol et l'enlèvement de la jeune femme de Las Vegas, un homme portant à l'évidence une perruque se présenta à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans. Il paya en argent liquide un billet pour Las Vegas et déclara qu'il s'appelait Francis Gabriel. Puis, soudain, au beau milieu de la transaction, il changea sa destination pour Los Angeles. Les préposés aux ventes de billets d'avion sont entraînés à identifier les comportements suspects. La préposée avisa le service de police de l'aéroport de ce client bizarre. La perruque de l'homme, le fait qu'il ait payé en liquide et son comportement étrange étaient autant d'éléments qui permettaient aux policiers en civil d'interroger cet homme. Il le suivit à l'extérieur. Après l'avoir rejoint, il lui demanda de montrer une carte d'identité et son billet d'avion. Les autorités de la Nouvelle-Orléans apprendraient le nom de ce voleur de voiture et se joindraient aux recherches pour trouver le fugitif, toujours insaisissable. En janvier 2001, les autorités de Las Vegas étaient à la recherche du fugitif Maghfour Mansour, soupçonné de vol, d'enlèvement et de viol. Un mois plus tard, à l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, un homme déguisé avait attaqué un agent de police avant de prendre la fuite à bord d'un pick-up dont il s'était emparé. C'est le policier en civil Jefferson Parrish, assigné à l'aéroport, qui avait signalé ce crime. On transmit la description du véhicule et de son conducteur aux unités de tous les services de police. Trente minutes plus tard, un policier de St. Charles aperçut le pick-up à 15 km de l'aéroport. Il fit vérifier le numéro de la plaque d'immatriculation pour constater qu'il s'agissait bien de la camionnette volée. Le policier le prit alors en filature, mais comme il savait qu'il y avait des travaux de réfection sur la route un peu plus loin, il ne se pressa pas. Quand le suspect arriva à la hauteur des travaux, il poursuivit sa course et accrocha un des ouvriers en faisant une embardée. Le policier de St. Charles arriva quelques minutes plus tard. Quand il vit l'ouvrier par terre, il fit appeler une ambulance et alla ensuite vérifier le pick-up. Son conducteur s'était enfui à pied. À l'aéroport, la police fouilla un sac qu'avait laissé le fugitif derrière lui. Comme ce bagage avait été laissé sans surveillance, le lieutenant Glenn Tocca n'avait pas besoin d'un mandat pour l'ouvrir.
On a trouvé des papiers d'identité avec une photo du suspect. C'était un passeport italien. En le vérifiant, on a constaté qu'il s'agissait d'un passeport volé sur lequel le suspect avait apposé sa propre photo.
Les policiers trouvèrent également une liste de numéros de cartes de crédit volées, des cartes de joueurs émises par des casinos partout aux États-Unis et plusieurs numéros de sécurité sociale. Comme il y avait vraisemblablement un risque de fraude dans plusieurs États, la police de Jefferson appela le bureau du FBI de la Nouvelle-Orléans. On envoya une photo du suspect et le nom qui figurait sur le passeport volé à l'agent Sandra Zulli.
On a introduit ce nom dans notre base de données. Nous avons ensuite tenté d'identifier les photos de quiconque se servait de ce nom.
La photo du fugitif Maghfour Mansour, recherché à Las Vegas, apparut alors à l'écran. Zulli appela le bureau de Las Vegas pour avoir plus d'informations et put ainsi confirmer qu'il s'agissait bien de lui. Malgré tous les efforts du personnel d'urgence, l'ouvrier de la construction mourut de ses blessures. Les autorités poursuivirent les recherches de Mansour à partir du pick-up. Le lieutenant Tocca se joignit aux recherches près du fleuve Mississippi.
On a effectué des recherches sur une zone d'un rayon de 2 km et la police nous a aidés. Au cours de ces recherches, on disposait d'un hélicoptère et de chiens.
Le secteur ne facilitait pas le travail de recherche. On chercha pendant plus de 24 heures, vérifiant le moindre endroit qui aurait pu servir de cachette.
On en a conclu qu'il s'était soit jeté dans le fleuve où il s'était noyé, soit qu'il était parvenu à sortir de la zone de recherche.
Les autorités n'avaient pas le choix. Il fallait supposer que Mansour était bien en vie. On espérait découvrir où le fugitif était allé pendant son séjour à la Nouvelle-Orléans. Peut-être voudrait-il y retourner. Les enquêteurs examinèrent les listes des passagers et regardèrent les enregistrements des caméras de sécurité afin de reconstituer les faits et gestes du fugitif.
Le jour précédent, il était arrivé du Connecticut à la Nouvelle-Orléans. On a découvert qu'il était allé dans des casinos ce soir-là. Le lendemain, il devait repartir quand un policier était venu l'interroger.
Le type de comportement de Mansour était sans équivoque.
On se disait qu'il finirait par aller dans un casino. C'est la raison pour laquelle on s'est concentré sur leurs équipes de sécurité pour les alerter et leur dire que le suspect pourrait se présenter chez eux sous un déguisement.
Les autorités diffusèrent également sa photo et divulguèrent ses nombreux pseudonymes en espérant que le public les aiderait à le trouver. Quiconque disposait de renseignements pouvait appeler la police. On se mit immédiatement à recevoir des appels. L'un d'eux provenait d'un automobiliste qui croyait avoir vu Mansour le soir où l'ouvrier s'était fait frapper. Ce soir-là, l'automobiliste roulait derrière un taxi sur une route près de l'aéroport. Il avait alors vu un homme surgir d'un boisé et héler le taxi. Il ressemblait à Mansour. Les policiers ne parvinrent toutefois pas à retrouver le chauffeur de taxi en question.
On a reçu de nombreux rapports d'individus qui croyaient avoir vu cet homme marchant le long d'une route, assis à un bar ou dans un casino. On a vérifié toutes ces possibilités.
Malheureusement, aucune de ces pistes ne menait à Mansour. Non seulement se déplaçait-il rapidement, mais il se servait également de plusieurs pseudonymes, comme nous le raconte l'agent spécial Sandra Zulli du FBI.
Maghfour Mansour avait plusieurs fausses identités. On en est venu à la conclusion qu'il volait des cartes d'identité régulièrement au casino. Les cartes des joueurs qu'on avait trouvées dans son sac de voyage avaient effectivement été volées dans des casinos.
Certaines de ces cartes avaient été émises par des casinos d'Atlantic City. Pour remonter cette piste, les agents de la Louisiane contactèrent le bureau du FBI de Newark. L'agent spécial Joseph Furey vérifia alors la carte de casino dont Mansour s'était servi et qui était sous le nom de Yasir Hamed.
J'ai appelé l'hôtel auquel était attaché ce casino et j'ai parlé au vice-président chargé de la sécurité. Il m'a confirmé que ce monsieur Hamed était effectivement venu jouer à leur casino le 3 janvier 2001 et qu'il avait empoché environ 50 000 dollars.
C'était 6 jours avant l'incident de l'aéroport de la Nouvelle-Orléans. Mais compte tenu du style de vie de Mansour, cet argent s'envolerait sans doute rapidement.
S'il voulait gagner de l'argent à nouveau, nous pensions qu'il retournerait sans doute à Atlantic City pour y jouer.
L'agent Furey apprit alors qu'on avait trouvé un numéro de téléphone du New Jersey dans les bagages de Mansour.
On ne savait pas pourquoi il avait ce numéro, s'il l'avait déjà composé, ni à qui appartenait ce numéro de téléphone.
Les autorités découvrirent alors que l'abonné vivait à Brigantine dans la banlieue d'Atlantic City. On mit alors cette maison sous surveillance policière. On n'avait guère d'informations sur le propriétaire de la maison, mis à part qu'il était chauffeur de taxi. Les agents espéraient découvrir un lien entre lui et Mansour. Pendant ce temps, d'autres équipes effectuèrent des recherches dans le réseau des casinos d'Atlantic City.
On a distribué des affiches indiquant qu'on le recherchait dans tous les hôtels abritant des casinos à Atlantic City, de même qu'au service de police de la ville et de l'État du New Jersey.
Quelqu'un, quelque part, finirait par tomber sur le fugitif. Mais plusieurs mois s'écoulèrent sans qu'il ne réapparaisse. Puis, dans un hôtel d'Atlantic City, dans la soirée du 4 mai 2001, un patrouilleur de Pennsylvanie en vacances et sa femme rentrèrent dans leur chambre d'hôtel. Pour découvrir qu'il n'y était pas seul. Le patrouilleur reconnut le visage de Mansour pour l'avoir vu sur les affiches. Il se rappelait cet homme qui avait tué un ouvrier. Pour une raison inconnue, Mansour quitta la chambre sans faire de mal au couple ni voler leur argent. Le patrouilleur avisa le personnel de l'hôtel et leur demanda d'alerter le FBI. Mansour était enfin sorti de sa tanière et il avait maintenant une arme à feu. Il était une menace pour tous ceux qui lui barraient la route.
Plus l'affaire progressait, plus j'étais conscient que cet homme ferait tout pour continuer à mener son train de vie. Il aimait ce luxe qu'il s'offrait illégalement et il éviterait à coup sûr tout contact avec les autorités.
Deux jours plus tard, à 6h30 du matin, le guichet automatique d'un casino envoya une alerte au personnel de sécurité quand un client tenta d'obtenir une avance en argent liquide avec une carte de crédit volée.
Come here a second. I need to show you something real quick. Check this guy out here on the ATM machine here. Why don't you go check that out for me? Check to see what's going on.
Un des gardiens surprit l'utilisateur en pleine transaction. Ce dernier lui répondit alors calmement que la carte lui appartenait. Il déclara qu'il avait bien signalé le vol de cette carte, mais qu'il l'avait retrouvée le matin même et oublié d'en aviser la banque émettrice. Quand on lui demanda de présenter une carte d'identité, l'homme remit au gardien un passeport indien qui, de toute évidence, avait été falsifié. Le gardien tenta d'amener l'homme avec lui pour l'interroger, mais ce dernier brandit une arme à feu avant de prendre la fuite. Même si le gardien l'ignorait, l'homme en question n'était nul autre que Maghfoor Mansour. Celui-ci sauta à bord d'un taxi et força le chauffeur à prendre la fuite. Le service de sécurité de l'hôtel signala l'incident à la police d'Atlantic City. De nombreuses unités se mobilisèrent pour intercepter le taxi. Mais, une fois encore, Mansour avait une longueur d'avance sur la police. Première occasion, le chauffeur risqua le tout pour le tout et prit la fuite. Quelques minutes plus tard, des gens devant le casino Taj Mahal aperçurent un homme en complet descendre d'un taxi et disparaître à l'intérieur. Après avoir examiné tous les appels à propos de ces incidents, la police d'Atlantic City croyait que Mansour était sans doute mêlé à cette affaire. Les autorités dépêchèrent aussitôt des policiers au Taj Mahal. Les descriptions des témoins correspondaient aux fugitifs. De plus, les détectives trouvèrent un passeport indien falsifié, celui-là même que le fugitif avait montré au gardien près du guichet automatique. La photo qui se trouvait à l'intérieur était celle de Maghfoor Mansour.
Le chauffeur de taxi a déclaré que Mansour lui avait dit qu'il le tuerait lui, de même que tout policier qui tenterait de l'arrêter. Il ne voulait pas retourner en prison. À ce moment-là, on a intensifié nos efforts parce qu'on savait que cette situation pourrait très bien se reproduire. Cet homme-là semblait être pris dans une spirale qui le menait tout droit vers le bas.
Maghfoor Mansour avait échappé aux autorités depuis plusieurs mois. Maintenant, alors que les agents cernaient l'important casino Taj Mahal, ils espéraient qu'ils le piégeraient enfin. Le FBI était à la recherche de Maghfoor Mansour depuis l'enlèvement et le viol d'une jeune femme, le vol d'une voiture et l'homicide au second degré d'un ouvrier. Il avait échappé aux agents de Las Vegas et de la Nouvelle-Orléans. En mai 2001, il avait réapparu à Atlantic City. Dans l'espoir de mettre enfin un terme à sa cavale meurtrière, l'agent spécial du FBI, Joseph Fury, organisa des recherches au Casino Hotel où on avait vu Mansour entrer.
On a établi un poste de commandement au Taj Mahal, de concert avec le service de police d'Atlantic City, la police de l'État du New Jersey et le personnel de sécurité du Taj Mahal afin de retrouver Mansour. On le croyait dans l'hôtel, quelque part.
Mais Mansour ne serait pas facile à trouver. L'établissement de 1200 chambres compte un casino de 12 000 mètres carrés où se trouvent des milliers de clients, de même que des aires de service où l'on trouve des dizaines de couloirs, de bureaux et de salles d'entreposage dans lesquelles ils pouvaient se cacher. Les enquêteurs devaient fouiller chacun de ces endroits un à un. Les autorités craignaient que Mansour ne se soit échappé de nouveau. Ils élargirent alors leur champ de recherche.
La police du New Jersey et celle d'Atlantic City ont ratissé tout l'hôtel et le casino, de même que tous les autres établissements de ce genre à Atlantic City.
Les recherches furent vaines. Encore une fois, Mansour était parvenu à échapper à la police. Les enquêteurs réquisitionnèrent tous les rubans des caméras de surveillance des hôtels de la ville afin de trouver une piste. Après avoir regardé des milliers d'heures de matériel, ils aperçurent enfin Mansour. Il descendait d'un taxi. La police d'État vérifia alors le numéro de la plaque d'immatriculation pour découvrir que ce taxi appartenait à un chauffeur de brigantine en banlieue d'Atlantic City.
J'ai demandé quel était le nom du chauffeur de taxi et dans quelle direction ils étaient allés. Et l'on m'a répondu qu'il s'agissait de l'individu que j'avais surveillé au moment où l'on attendait le retour de Mansour dans la région d'Atlantic City.
Les autorités dépêchèrent des agents à la maison de Brigantine munis d'un mandat de perquisition et accompagnés d'une unité SWAT. Les membres de l'équipe se mirent en position. Pour faire sortir le chauffeur de taxi de la maison, un agent appela en se faisant passer pour un répartiteur. Il lui dit que l'un de ses clients habituels avait besoin de lui.
On s'est dit que si Mansour était à l'intérieur, il le tenait peut-être en otage.
Le chauffeur sortit seul et les agents l'entraînèrent avec eux pour l'interroger en toute sécurité. Le chauffeur leur dit qu'il n'y avait personne d'autre que lui dans la maison, mais malgré tout, l'équipe d'arrestation devait s'assurer qu'il disait la vérité. Ils furent déçus de nouveau. Les policiers retournèrent au quartier général de la police d'État pour y interroger le chauffeur de taxi. Celui-ci déclara qu'il avait conduit Mansour à plusieurs reprises dans le secteur d'Atlantic City. Ils étaient peu à peu devenus amis, mais il déclara également qu'il collaborait entièrement avec la police.
Il nous a tout de suite dit que Mansour était venu chez lui ce matin-là, qu'il avait brandi une arme à feu et lui avait ordonné de le conduire à Philadelphie, qui se trouve à environ une heure de route d'Atlantic City. Il l'avait donc conduit à cette ville où il l'avait laissé.
Le chauffeur ajouta qu'il n'avait pas porté plainte parce que Mansour savait où il vivait et qu'il craignait trop les représailles. Fury alerta aussitôt le bureau du FBI de Philadelphie.
Je me suis ensuite rendu là-bas en voiture avec des photos de Mansour et j'ai travaillé avec les agents de la division de Philadelphie.
Les agents se rendirent à une gare routière près de laquelle le chauffeur de taxi avait déposé Mansour à la recherche de gens qui l'auraient aperçu.
On a montré sa photo à plusieurs commis. L'un d'eux a reconnu Mansour. Il nous a alors dit que celui-ci avait acheté un billet d'autobus en partance pour New York.
Il semblait bien que Mansour n'était allé à Philadelphie que pour donner du fil à retordre aux agents à sa poursuite. le 9 mai 2001, le FBI ajouta le nom de Maghfour Mansour à la liste des 10 hommes les plus recherchés au pays. Ainsi, son cas devenait une priorité pour tous les agents des États-Unis, comme nous le raconte Brian Dunaway, membre de l'escouade tactique.
Quand le nom d'un individu en particulier apparaît sur la liste du FBI, il se produit deux ou trois choses. D'abord, on dispose de beaucoup plus de ressources pour mener l'enquête, et l'on offre une récompense de $50,000 pour sa capture.
Le lendemain, des agents de sécurité du Taj Mahal à Atlantic City signalèrent qu'un homme armé, dont la description correspondait à celle de Mansour, avait volé des montres à la bijouterie de l'établissement pour un montant total de $300,000. Les caméras de surveillance avaient capturé le numéro de la plaque d'immatriculation de la limousine dont Mansour s'était servi pour s'enfuir. Au bureau du FBI de Newark, on questionna le chauffeur de cette limousine. Celui-ci déclara qu'il avait fait monter Mansour à bord de sa voiture plutôt à New York ce jour-là. Quand Mansour avait appelé pour obtenir les services d'une limousine, il avait demandé qu'on passe le prendre à un coin de rue en particulier. Le chauffeur ignorait donc où son client était logé. Il ajouta que Mansour ressemblait à n'importe quel gros joueur. Vers 20h, il avait entendu la sonnerie d'un système d'alarme. Mansour avait alors sauté à bord de son véhicule et lui avait ordonné de partir en vitesse. Le chauffeur lui avait obéi. Mansour était armé. Le fugitif descendit de la limousine à 5 pâtés de maison de l'hôtel qu'il venait de voler et sauta à bord d'un taxi. Un Crown Victoria blanc, immatriculé au New Jersey. Le FBI demanda à la police de diffuser un bulletin spécial à toutes les unités de patrouille pour qu'on retrouve la voiture en question. Ce soir-là, les policiers arrêtèrent tous les véhicules qui correspondaient à la description. On finit par trouver le chauffeur qui avait conduit Mansour. Celui-ci déclara qu'il l'avait emmené à l'aéroport de Philadelphie. Le FBI apprit alors que seulement 2 avions avaient quitté Philadelphie depuis que Mansour s'était retrouvé à l'aéroport. Tous deux étaient partis pour Las Vegas. On ne trouva pas le nom du fugitif sur la liste des clients, mais il pouvait utiliser un pseudonyme jusque-là inconnu aux agents. Si Mansour était à bord d'un de ces avions, les autorités de Las Vegas seraient là pour l'accueillir. À l'aube, le 11 mai 2001, le FBI croyait que le dangereux fugitif Maghfour Mansour se trouvait à bord d'un des 2 avions qui devait atterrir sous peu à Las Vegas. L'agent spécial Joseph Urey du New Jersey poursuivait l'enquête pendant ce temps.
J'ai appelé la division de Las Vegas pour leur dire que Mansour venait de commettre un vol à main armée à Atlantic City et qu'il était probablement sur le chemin du retour vers Las Vegas. Le service de police de Las Vegas, de même que le FBI, ont dépêché des agents à l'aéroport pour attendre les 2 avions.
Le détective Brian Dunaway était à la recherche de Mansour depuis le début. Il savait à quel point le fugitif était dangereux.
Tous ceux à qui on a parlé, tous ceux qu'il connaissait un peu, savaient que cet homme ferait tout pour ne jamais retourner en prison. Il l'avait déclaré à plusieurs reprises. De plus, il avait commis tellement de crimes qu'il ne voudrait certainement pas affronter la justice. Dans les dossiers de ses incarcérations, il avait clairement exprimé qu'il ne reviendrait jamais derrière les barreaux. Sans doute voudrait-il plutôt partir dans un grand geste éclatant.
Mansour se déguisait fréquemment et utilisait de fausses cartes d'identité pour voyager. On ne trouva cependant aucune trace de lui sur le premier avion. Quand le deuxième atterrit, les agents ne le trouvèrent pas à bord non plus. Suite aux déclarations du chauffeur de limousine, les agents savaient au moins où le fugitif restait quand il était de passage à New York.
J'ai contacté l'agent spécial Ted Miller du bureau de New York pour lui annoncer que Mansour ne se trouvait pas sur les deux vols de Las Vegas et que par conséquent, il était sans doute retourné à New York.
Après avoir examiné les relevés des téléphones de Mansour à Las Vegas, les agents interrogèrent certaines de ses connaissances à New York après leur avoir rappelé qu'il pouvait toucher une récompense de $50,000. Ils retrouvèrent bientôt le chauffeur de limousine dont Mansour était un client régulier.
À New York, il est très difficile de trouver un taxi. Il y a donc de nombreux chauffeurs de limousine qui offrent ce service et qui sont à votre disposition. Ce chauffeur de limousine conduisait régulièrement Mansour parce que ce dernier semblait avoir beaucoup d'argent.
Il déclara qu'il n'avait pas vu Mansour depuis un certain temps, mais au cours de ses passages à New York, il allait toujours le chercher au même hôtel du centre-ville.
Le chauffeur de la limousine a été coopératif. Il a conduit les agents à l'endroit où Mansour avait l'habitude de rester. Il était environ 6 heures du matin quand l'agent Miller m'a annoncé qu'ils avaient localisé l'hôtel.
Les agents du FBI, la police de New York, de même que des marshals, prirent la direction de l'hôtel. L'agent spécial Timothy Latourneur faisait partie de l'équipe d'arrestation.
On a reçu un appel de l'agent Miller, selon lequel Mansour avait commis un vol à main armée la veille au soir au Taj Mahal et qu'il était revenu à New York. L'agent croyait que Mansour se trouvait dans un hôtel sur la 47e rue Ouest.
Les enquêteurs s'apprêtèrent à surveiller l'établissement de l'extérieur. Avant toute chose, on devait les informer sur les tenants et les aboutissants de l'affaire et des dangers qu'il courait.
On a mentionné qu'il avait brandi un pistolet au cours des crimes qu'il avait commis. Nous avons aussi parlé du viol d'une jeune femme de 17 ans, ainsi que d'un meurtre en Louisiane. On connaissait donc sa propension à la violence.
Quelques enquêteurs se rendirent à l'accueil. Le commis leur confirma que Mansour avait utilisé un pseudonyme pour se louer une chambre. Il leur donna le numéro de cette chambre, mais ajouta qu'il ignorait si le client s'y trouvait.
Notre plan, c'était d'appeler à la chambre où l'on croyait que Mansour était. Des agents se tenaient devant sa porte. Il y en avait d'autres dans le hall de l'hôtel. On l'a appelé sous prétexte qu'il avait demandé de se faire réveiller. S'il répondait ou si les agents entendaient du bruit dans la chambre, on saurait qu'il s'y trouvait, ou du moins qu'il y avait quelqu'un. On a appelé à quelques reprises. Personne n'a pris l'appel et on n'a entendu aucun bruit à l'intérieur.
Mansour était sans doute sorti. Il fallait espérer qu'il reviendrait. De fait, quelques heures plus tard, les agents l'aperçurent. Il était seul et retourné à l'hôtel. Cette fois-ci, il n'était pas question de le laisser filer. Mansour avait juré qu'il ne se ferait jamais prendre en vie. Il sortit son arme et la braqua sur le détective.
Il ne s'est pas écoulé plus de quelques secondes entre le moment où j'ai vu son arme et où j'ai dû faire feu. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Il y avait des civils dans le hall de l'hôtel. Je n'avais pas le droit de manquer mon coup.
Malgré les 3 projectiles de 9 mm dans son corps, Mansour continuait à se débattre pendant qu'on procédait à son arrestation. Grâce à leur entraînement, aucun des membres de l'équipe n'a été blessé.
Les choses se font d'instinct. On devait réagir automatiquement et ce genre de réaction ne se produit que lorsqu'on a reçu l'entraînement approprié. Mes réactions n'ont été que la conséquence de l'excellent entraînement que j'ai reçu. La recommandation que je ferai aux autres agents, c'est de s'entraîner autant que possible de façon à ce que cela devienne instinctif.
Les recherches pour retrouver Mansour ont duré 5 mois et plus d'une douzaine d'agences policières y ont participé. Les ambulanciers ont tenté de stabiliser l'état de Mansour, mais celui-ci est mort en route vers l'hôpital. Sa cavale a ainsi pris fin.
Aucun service de police ne peut mener une enquête de cette envergure tout seul. Sans la coopération et les efforts de toutes les agences policières, je ne crois pas qu'on aurait réussi à capturer Mansour sans blesser quelqu'un d'autre.